Je présente maintenant François Julien, notre intervenant de ce soir. Donc François Julien est philosophe et sinologue. Il est professeur à l'Université Paris 7. Il est également directeur de l'Institut Marcel Granet. Il est l'ancien président du Collège international de philosophie. Parmi ses publications, il y en a de nombreuses, je les citerai toutes. Tout d'abord, « La valeur allusive », publié en 1985. « Procès ou création, une introduction à la pensée des lettrés chinois », paru en 1989 au Seuil et qui est réédité en livre de poche. « Éloge de la fadeur », qui est publié chez Piquet en 1991 et qui est également disponible actuellement en livre de poche. « La propension des choses pour une histoire de l'efficacité en Chine », paru au Seuil en 1992, qui est également disponible en poche. « Figure de l'immanence », paru en 1993 chez Grasset, disponible en poche. « Le détour et l'accès », paru en 1995 chez Grasset, également disponible en livre de poche. « Fonder la morale », 1995, paru chez Grasset, disponible en livre de poche. « Traité de l'efficacité », paru en 1997 chez Grasset, qui n'est pas encore disponible en livre de poche. « Un sage et sans idée » ou « L'autre de la philosophie », paru au Seuil en 1998. Et enfin, les deux dernières publications, « De l'essence ou du nu », avec des photographies de Ralph Gibson et des peintures chinoises et peintures de la Renaissance, qui est paru en novembre de cette année au Seuil. Et enfin, « Pensée d'un dehors, la Chine », « Entretien d'extrême Occident », paru au Seuil, avec la collaboration de Thierry Marchez, en novembre 2000. Voilà, François Julien, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes. Je vous remercie.
Merci. Mon thème de ce soir sera sagesse ou philosophie. Et je commencerai par dire que j'ai le sentiment que la philosophie a un problème avec la sagesse, même si elle se dissimule, puisque si au départ les choses paraissent claires, qu'il y a un découpage, une hiérarchie bien établie entre la sagesse et la philosophie, puisque, comme dit Platon, la sagesse serait réservée aux dieux et que les hommes ne pourraient accéder qu'à la philosophie comme un mot de la sagesse, il semble que très vite les choses soient retournées et que la philosophie, sous ses termes modestes, ait renvoyé la sagesse de côté, comme inconsistante, comme insuffisamment théorique. Donc, tant de retenue de la part de la philosophie n'aurait servi qu'à masquer les ambitions de la philosophie naissante, alors qu'elle s'est prêtée déjà, et déjà chez Platon, à reléguer la sagesse dans l'inconsistance de tout ce qui n'est pas un savoir démontré ou révélé. Et ce dédain n'a pu aller que croissant avec le développement de la philosophie. Car la philosophie grandissait. Elle pouvait se targuer d'avoir une histoire. La sagesse, non. On écrit, on essaie d'écrire des histoires de la philosophie, on ne peut pas écrire d'histoire de la sagesse. En conséquence, la sagesse s'est vue traitée à l'envers, non pas en sur, mais en sous-philosophie. Elle serait une pensée qui n'oserait pas se risquer pour atteindre l'absolu, la vérité, ou plutôt qui aurait renoncé, pensée molle, sans arête, émoussée, tempérée, pensée plate pour tout dire, résiduelle, le lieu commun, stagnant si loin de l'essor fascinant des idées. Je cite très simplement Wittgenstein quand il dit « La sagesse est quelque chose de froid et dans cette mesure de stupide. » Ou encore « La sagesse est comme une cendre froide, grise, qui recouvre la braise. » L'affaire semblerait donc entendue, la sagesse renvoyée sans regret dans l'enfance de la pensée. Affaire tranchée, a prétendu la philosophie. Affaire conclue. Hypocrite, lui rétorque la sagesse. Cela vous-même, vous ne le croyez pas. Et même, vous ne le voulez pas. Ne serait-ce que parce que la philosophie a bien trop besoin de la sagesse pour se hausser. Et surtout, pour se défausser du rôle vulgaire qu'elle n'entend pas jouer. Car en même temps que la philosophie couvre ostensiblement la sagesse de ses mépris, nous n'avons cessé d'appeler sagesse toute pensée qui, comme on dit, servirait à vivre, comme le voulaient déjà les Grecs, et que nous n'avons pas désappris totalement à le dire, en dépit de toutes les précautions qui met depuis la philosophie. À dire vrai, quelque part, nous travaillons encore la vieille image stoïcienne ou épicurienne ou sceptique d'un sage qui mettrait sa pensée en pratique, qui mise sur elle pour le bonheur. Et même, je crois que l'exigence s'en fait de plus en plus vive aujourd'hui. Depuis que la philosophie ne peut plus s'adosser à la religion ou à ses succédanés absolus, les utopies de la science ou du politique. Et je crois que ce doute gagne même l'intérieur de la philosophie. Puisqu'aujourd'hui, avec la disparition des grands systèmes, avec la dissipation de la prétention totalisante de la philosophie, en tout cas avec l'abolition de la fonction hégémonique que s'attribuait la philosophie, ce refoulé de la sagesse retrouve une actualité. Quelque part, se rouvre le procès de la sagesse à l'égard de la philosophie. Je crois que nul ne l'a mieux établi que Montaigne, et j'en reviens à ce terme du dernier essai de l'expérience. Je cite « Les inquisitions et contemplations philosophiques ne servent que d'aliment à notre curiosité. Les philosophes, avec grand raison, nous renvoient aux règles de nature. Mais elles n'ont que faire de si sublimes connaissances. Ils les falsifient et nous présentent son visage peint trop haut en couleur et trop sophistiqué. D'où naissent tant de divers portraits d'un sujet si uniforme. Comme elle nous a fourni de pieds à marcher, aussi à elle de prudence à nous guider dans la vie. Prudence, non tant ingénieuse, robuste et pompeuse comme celle de leur invention, mais à l'avenant facile et salutaire, et qui fait très bien ce que l'autre dit en celui qui a l'air de savoir s'employer naïvement et ordonnément, c'est-à-dire naturellement. Le plus simplement se commettre à nature, c'est s'y commettre le plus sagement. » On parle de la sagesse de Montaigne, on ne pourrait pas parler de la philosophie de Montaigne. Et Montaigne est comme une sorte de grand massif isolé, qui a un statut d'exception et qui, je crois, ne cesse de miner la philosophie. Un mot résume cette pensée de Montaigne qui nous échappe par sa simplicité. C'est le mot que nous connaissons tous pour l'avoir lu dans Emmanuel. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos. Je choisirai ce soir comme un fil conducteur au cours de cet exposé et tout ce que j'essaierai d'en dire ne sera que le commentaire de cette formule à peu près incommentable qui tend à dire ce que nous appelons d'un terme que nous n'avons jamais théorisé, la disponibilité. Parce que je conçois au fond la disponibilité comme étant ce que ne cesse de vouloir dire la sagesse face à la philosophie. Pour développer cette notion, qui je crois sert de fond à la sagesse, dont nous ne pouvons pas nous passer, mais que nous n'avons pas conçue, ou qui ne traîne chez nous seulement sous des termes jidiens, je cite, « Je dirais que toute nouveauté doit nous trouver toujours tout entier disponible. » Notion qui n'est ni morale, ni psychologique, et c'est pourquoi elle échappe à la prise de la philosophie. Et pourtant, on le dit sur le mode le plus courant, « Soyez disponible. » Mais justement, on en use comme un terme courant, dont on se sert en passant, sans vouloir s'y arrêter. Sans donc qu'on le crédite d'aucune tenue théorique, sans donc qu'on en attende par conséquent aucune issue philosophique. Or, comment déployer en concept cette disponibilité? Comment lui donner consistance? Autrement dit, comment recharger aujourd'hui notre concept de la sagesse? Mais bien sûr, sans renoncer au travail de la philosophie, là qu'il a raison, ni faire appel au gourou. Pour ma part, si j'ai choisi de faire un pas de côté et de passer par la Chine, c'est-à-dire de passer par le contexte d'une pensée qui soit la plus extérieure à la nôtre, extérieure par la langue et aussi par l'histoire, en même temps que développer, expliciter, commenter, c'est pour pouvoir réfléchir à la philosophie européenne à partir de cet autre. C'est-à-dire, en somme, remonter dans ses partis pris et essayer de l'interroger dans son impensé. Au fond, si je passe par la Chine, c'est bien sûr pour d'abord retrouver une initiative théorique, sortir du cadre européen et, le mettant à distance, voir comment il se profile sur l'horizon possible de la pensée. Si je fais ce pas de côté, bien sûr, ce n'est pas par exotisme, mais pour dépayser la pensée, la confronter à d'autres intelligibilités possibles, la sortir de ses rangements, de ses catégorisations, de son histoire, la déranger. Mais surtout, si je passe par la Chine, si je fais ce pas de côté, c'est d'abord, avant tout, pour retrouver prise. Car je crois que c'est la difficulté la plus grande en philosophie. Retrouver prise. Retrouver prise sur ce que n'a pas pensé la philosophie. Retrouver prise sur ce fond d'évidence, de banalité, de lieu commun, sur ce fond d'athéorique, sur ce que la philosophie a dû laisser tomber pour s'engager dans cette aventure fascinante qui était pour elle celle de la quête de la vérité, la quête de la vérité et la quête du sens. Ce sur quoi, donc, retrouver prise, ce sur quoi elle a échoué à prendre prise elle-même et qu'elle a laissé de côté et qui donc est devenue rester l'apanage de la sagesse. Alors, pour essayer de donner consistance à cette notion de sagesse à travers celle de disponibilité, et en faisant un détour par la pensée chinoise pour réattaquer la philosophie, je vais partir de la formule de Confucius dans les entretiens, où il est dit que le maître était libre de quatre choses, plutôt, il y a quatre choses que le maître n'avait pas. Il était sans idée, sans nécessité, sans position, sans moi. Il faut comprendre, sans idée privilégiée, donc sans nécessité prédéterminée, donc sans position arrêtée, et finalement, sans moi particulier. Donc, quatre termes, tous négatifs. Le maître est sans idée, non pas sans idée en l'air, ou sans idée toute faite, comme on a pu traduire, mais simplement sans idée, parce qu'au fond, il ne présuppose rien. Et il se garde d'avancer une quelconque idée, comme on dit, j'ai mon idée, faire à son idée. Non, il se garde d'avancer quelque idée que ce soit. Il garde tout à plat. Plutôt, il reste ouvert à tous les possibles de la réalité. Et comme il est sans idée, comme il n'avance pas d'idée, il se trouve sans nécessité qui s'impose à lui. Il n'y a pas de « il faut » qui vienne comme ça prédéterminer sa conduite ou son opinion. Et comme il est sans idée, comme il est sans nécessité qui s'impose à lui, il est sans position puisqu'il ne s'arrête dans aucune position particulière. Il ne cesse d'évoluer de concert avec la réalité. Et ne s'arrêtant dans aucune position particulière, il se trouve donc sans moi. Sans moi, c'est-à-dire sans rien qui vienne le singulariser. Et les commentateurs remarquent bien qu'au fond, cette formule fait boucle. C'est parce qu'il est sans idée, qu'il est sans nécessité, qu'il est sans position arrêtée, et finalement sans position arrêtée, qu'il est sans moi particulier. Et comme il est sans moi particulier, il est sans idée. Enfin. Cette formule pour exprimer justement la disponibilité, le fait que le sage garde tout ouvert, tout sur le même plan, tout à égalité, qu'il se garde de rien privilégier. Et c'est ce que nous cesse de dire la pensée chinoise à l'Antiquité. Par exemple, je cite, « L'homme de bien est complet, global, et n'incline d'aucun côté. L'homme de peu, c'est l'inverse. » Ce qui dit que l'homme de bien n'est partisan défini de rien. Il est sans a priori. Son premier mérite est la non-partialité. C'est-à-dire qu'il garde ouvert tous les possibles, sans les laisser réduire d'aucun côté. Ou encore est-il dit, l'homme de bien dans le monde ne se braque ni pour ni contre, mais incline vers ce qu'exige la situation. Et c'est ce qui conduit Confucius à dire de lui-même, il n'y a rien que je puisse ou que je ne puisse pas. Il commence par classer les différents sages, ceux qui sont intransigeants et qui refusent de se souiller tant soit peu pour le bien du monde, d'un côté, et puis ceux qui, de l'autre côté, au contraire, sont prêts à se salir tant soit peu les mains pour le bien du monde, en tout cas à assumer la responsabilité. Et Confucius, au fond, dit « Moi, je suis différent de tous. Je suis différent de tous. Il n'y a rien que je puisse ou que je ne puisse pas. » C'est-à-dire que Confucius peut l'un aussi bien que l'autre. Ni intransigeant, non plus non intransigeant. Mais il peut être aussi intransigeant que les plus intransigeants quand il le faut, et aussi accommodant que les plus accommodants quand il le faut. Mencius aura un mot pour résumer cette sagesse de Confucius, sagesse de la disponibilité, et reprenant cette typologie des sages, celle d'un côté des accommodants, celle de l'autre des intransigeants, et puis de ceux qui essayent de trouver une voie entre les deux. Que dire de Confucius ? Ni qu'il est intransigeant, ni qu'il est accommodant, non. Confucius, de la sagesse, il est le moment. La sagesse, il est le moment, c'est-à-dire qu'il peut être aussi intransigeant que les plus intransigeants quand il le faut, aussi accommodant que les plus accommodants quand il le faut, quand le moment l'exige. Comprends mieux pourquoi, dans ce cas, le sage se présente sans idée, et c'est ce qui fait sa disponibilité. Puisque l'idée est à la fois trop individuelle, puisqu'elle est émanant d'un point de vue particulier, et en même temps trop générale, puisque subsumant des quatre divers. Une idée, paradoxalement, est viciée des deux côtés. À la fois trop partielle, et donc aussi trop partiale, une idée, mon idée, et en même temps trop abstraite, en tant qu'idée. Ce ne sont que des idées. À la fois trop restrictive par ce qu'elle privilégie, et par conséquent ce qu'elle exclut aussi, et en même temps trop extensive, en subsumant sous elle trop de cas différents. Alors je vois que cette vision de la disponibilité, c'est celle que l'on retrouve à travers un thème qui, chez nous, n'a pas de statut philosophique, mais qui traîne dans cette pensée plate, ce résidu de pensée que nous appelons bien souvent la sagesse, quand nous parlons du juste milieu. Il est vrai qu'au départ, dans la tradition grecque, le juste milieu a d'une certaine façon une consistance théorique. C'est la proportion. Et c'est Socrate disant à Calliclès, « Calliclès, tu négliges la géométrie. » C'est l'idée que la vertu est légale, entendue comme juste milieu entre l'excès et le défaut, la médiété chez Aristote. Toute vertu étant ce juste milieu entre deux extrêmes, défaut et excès. Ce milieu aristotélicien, la médiété, la mésotès, possède encore un statut théorique, lié qu'il est à la nature du continu, donc du divisible, et communiquant avec aussi bien ce qui est le moyen du raisonnement en logique, ou le mixte en physique. Mais on sait que le destin qu'a connu ensuite ce thème du juste milieu, en s'aplatissant dans la littérature, dans ce qu'on appelle les humanités, Horace, Est modus in rebus, ce qu'on appelait la hora mediocritas, et tout ce qui est devenu la demi-mesure, pensée frileuse, prudence, n'est-ce pas ? Ne vivre qu'à moitié, se retenir de tout excès. Alors je voudrais montrer comment, sur cette question du juste milieu, on pourrait penser tout autrement et redonner consistance à cette notion qui est en quelque sorte qui s'est décomposée et qui n'est plus qu'un thème rhétorique et qui a perdu toute force de la pensée. Pour cela, j'en viendrai à cette, en me tournant un peu dans ce grand monument de la pensée chinoise antique, vers ce livre de fond de la pensée chinoise qui est le classique du changement, le fameux I Ching. Et en considérant ce qui est la structure même des figures de ce livre, vous l'avez tous en tête, cela maintenant traîne partout, les deux traits pleins ou brisés, continu ou discontinu, et qui, rangés l'un sur l'autre, forment des figures, figures à trois traits, trigrammes, ou à six traits, hexagrammes. Or, quand on regarde ces figures du classique du changement, figure à 6 traits, des hexagrammes, 64 hexagrammes, une question se pose qui est de discerner où se trouve le milieu de la figure. Vous voyez, 6 traits comme ça, superposés, rangés l'un sous l'autre, qu'en est-il du milieu ? En un sens, il n'y a pas de milieu, puisque 6 traits se superposant ne laissent pas de traits médians. Et en même temps, il y a deux milieux, puisque chaque trigramme inférieur et supérieur contient un trait, le deuxième important du bas, ou le cinquième ensuite en s'élevant vers le haut, qui peut servir de milieu. Voilà donc une figure qui à la fois n'a pas de milieu et a deux milieux. Comment comprendre sa cohérence ? Il n'y a pas de milieu en même temps qu'il y a deux milieux. Or, on sait que pour qu'une structure ait sa consistance, il faut qu'elle ait un milieu pour éviter la dispersion, et en même temps, il faut qu'elle n'en ait qu'un seul pour éviter la divergence. On voit bien pourquoi la figure à la fois n'a pas de milieu et a deux milieux. Elle n'a pas de milieu parce qu'elle est paire, et elle a deux milieux parce qu'elle est impaire, parce qu'elle est deux fois trois traits. Deux trigrammes composant un hexagramme. Et là, je crois qu'il faut suivre de près la glose chinoise parce qu'elle nous éclaire sur une autre compréhension possible. Et au fond, ça qui paraît intéressant quand on regarde une autre pensée, une autre compréhension possible de ce que nous avons comme ça banalisé à l'extrême comme étant le juste milieu. À la fois, il y a un milieu dans chacun des deux trigrammes, inférieur et supérieur, parce que le trigramme est la structure en amont, la structure initiale, embryonnaire de la figure qui se développe en 6 traits et qui, en raccourci, a 3 traits. Donc, le trigramme est la figure embryonnaire, élémentaire, et l'hexagramme à 6 traits, développé, redoublé, est la figure déployée. Effectivement, il y a un milieu dans chaque trigramme, inférieur ou supérieur, de l'un ou l'autre côté, puisque en amont, c'est là ce qui est intéressant, rien n'exclut, en principe, le milieu, tout peut être milieu. Au départ, tout peut être milieu. Et quand on se retourne maintenant vers la structure développée, celle de l'hexagramme, de la figure à 6 traits, il n'y a plus de milieu, parce qu'une fois que la figure est développée, en aval, il n'y a plus que des voies, et il n'y a plus de repères possibles du milieu. Il n'y a plus de mesure du milieu que ça possible. Cela nous conduit à quoi ? Une structure qui à la fois est sans milieu et à deux milieux, aux deux extrêmes. Donc on peut y penser qu'au fond, puisque le milieu est aux deux bouts, aux deux extrêmes, ça signifie que je peux aussi bien l'un que l'autre, que je reste ouvert à toutes les possibilités, que chaque extrême, selon le moment, peut être un milieu. Ce juste milieu est à l'opposé de la demi-mesure, du milieu, à mi-chemin. Il signifie que je peux vivre l'un aussi bien que l'un, aussi bien l'un que l'autre. Je reviens à la formule de Confucius. Il n'y a rien que je puisse ou que je ne puisse pas. Aussi accommodant que les plus accommodants quand il le faut, aussi intransigeant que les plus intransigeants quand il le faut. Donc, ce n'est pas du tout un milieu qui serait à mi-chemin, qui serait celui de la demi-mesure, mais au contraire, un milieu qui ait l'égale capacité à faire l'un ou l'autre, selon ce qu'exige le moment. Il y a bien donc juste milieu, parce qu'il y a bien égalité dans l'égale disponibilité à l'égard de l'un ou de l'autre. Il y a donc bien égalité dans l'égale ouverture à l'un comme à l'autre. Ainsi que le commentent les penseurs chinois, 3 années de deuil à l'occasion de la mort de ses parents, ce n'est pas trop. Et boire des coupes de vin sans compter à l'occasion d'un banquet, ce n'est pas trop non plus. Il n'y a pas cherché à vivre à moitié, dans la demi-mesure, dans ce qui serait cette sagesse comme ça, prudente, timorée, et évitant les excès. Mais encore une fois, le juste milieu serait cette capacité à pouvoir l'un aussi bien que l'autre, et c'est dans cet aussi que se trouve l'égalité du milieu. Donc je vis l'un aussi bien que l'autre, et c'est dans cette égale capacité que je peux correspondre à ce qu'est l'ampleur de la réalité, sans exagérer d'aucun côté. Donc le milieu n'est pas arrêté à mi-chemin, c'est de pouvoir passer également de l'un ou l'autre, être capable de l'un aussi bien que de l'autre. Si l'on se reporte rapidement à ce qu'a été la pensée du milieu chez Aristote dans l'éthique, on voit en quoi cela diffère. D'abord parce qu'en grec, du côté grec, le milieu propre à la vertu est toujours envisagé par rapport à l'action. Donc de façon technique, sur un modèle posé comme but. Alors que dans la réflexion chinoise, il s'agit d'une pensée de la régulation, et qui vaut tout aussi bien pour le cours du monde que pour le cours de la conduite. Et puis, Aristote a bien l'idée d'un milieu qui soit, d'un juste milieu qui soit variable. Non pas arithmétique comme 6 entre 2 et 10, mais qui puisse, disons, tenir compte de la situation et correspondre donc à ce qu'exige le moment. Mais ce qu'on ne voit pas du tout chez lui, ce qui n'apparaît pas, c'est cette idée qu'il puisse y avoir en fait deux milieux, ou plutôt que chaque extrême puisse être un milieu en fonction du moment. La question qui se pose, c'est au fond, est-ce que... Il en va du même sur le plan théorique, et non plus sur le sujet de la conduite. Est-ce qu'on peut penser un juste milieu de la pensée? Mencius se développe, dans la tradition de Confucius, à partir de deux extrêmes. Celui des, ce qu'on appellera les individualistes, tradition de Yang Zhu, de ceux qui n'accepteraient pas de sacrifier un cheveu pour le bien du monde, et puis de ceux qui, à l'autre extrême, ce qu'on appelle les altruistes, la tradition de Mao Zedong, sont prêts à se faire racler, n'est-ce pas, élimer jusqu'au talon, comme dit Mencius, pour le bien du monde. Entre ces deux extrêmes, il y en a un autre, Zemo, qui essaie d'être entre les deux, et qui semblerait donc plus proche. Mais Mencius, dès lors que cette troisième position, ce Zemo, choisissant le milieu, dès lors qu'il tient au milieu, dès lors qu'il s'attache au milieu, eh bien il rate comme les deux autres. Il privilégie une possibilité et il en rate 100. C'est-à-dire qu'au fond, tenir le milieu, ce n'est pas tenir au milieu. Tenir le milieu, c'est justement ne pas s'attacher au milieu, ne pas en faire une position, ne pas en faire une position arrêtée. Tenir le milieu, c'est justement rester ouvert à l'un comme à l'autre, à l'une comme à l'autre possibilité. Cette différence me paraît caractériser ce que peut penser cette notion de disponibilité. Tenir le milieu et non pas tenir au milieu, être attaché à lui, se fixer en lui, en faire une position. On a dit de même pour, du côté taoïste, la pensée du vide. On sait que la tradition taoïste a privilégié la notion de vide. Mais en même temps, disent-ils, si le sage veut rester ouvert et donc privilégie le vide de son esprit, il faut bien qu'il se garde de s'attacher au vide, d'en faire une position, car dès lors qu'il s'attacherait au vide, qu'il en ferait une position, il le perdrait aussitôt. Donc ne pas faire une position, ne pas faire de son point de vue une position, garder tout ouvert, à égalité, c'est ça qui ferait la disponibilité. Et l'on trouve dans la pensée chinoise une réflexion élaborée sur le danger qu'il y a à constituer son point de vue en position. Constituer son point de vue en position, c'est justement le contraire de la disponibilité. On trouve une réflexion, et surtout chez les penseurs taoïstes, sur cette capacité à garder l'esprit disponible, à garder l'esprit ouvert, sans que rien vienne prédéterminer et donc réduire cette capacité. C'est ce que la pensée taoïste a développé sous le thème de l'esprit advenu. L'enjeu serait de laisser advenir son esprit. Laisser advenir, ça signifie laisser son esprit prendre une forme particulière, laisser son esprit advenir d'une certaine façon. Perd la sagesse, celui qui laisse son esprit se constituer en un point de vue particulier. Le danger, à cet égard, est de laisser son esprit advenir et se former d'une façon qui, comme telle, est toujours limitée. Parce qu'en nous privant par cet événement-ci de tous les autres événements possibles, notre esprit advenant nous fait voir les choses sous cet aspect-ci et nous fait oublier tous les autres aspects. Donc, c'est cette idée essentielle de ne pas laisser advenir, se former, se constituer son esprit comme un esprit particulier. Parce que c'est à partir du moment où l'esprit advient, et prend une certaine disposition, se constitue d'un certain point de vue, la réalité est perdue. La voie, le Tao, se trouve occultée. Je cite le penseur taoïste Zhuangzi au second chapitre de son œuvre, le Qi Wulun. La voie, le Tao, comment s'est-elle occultée au point qu'il y ait l'authentique et le falsifié? La parole, comment s'est-elle occultée au point d'opérer les alternatives? Car la voix, où peut-elle aller de sorte qu'elle ne soit pas là? Et la parole, où peut-elle exister de sorte qu'elle ne soit pas légitime? Comme le tranche laconiquement le commentateur, ça signifie au fond que le Tao, la voix, est partout. Aussi bien dans ce qu'on juge inauthentique que dans ce qu'on juge authentique. C'est pourquoi il n'y a ni authentique ni falsifié. Le clivage est artificiel. De même, la parole est toujours légitime. C'est-à-dire qu'il y a toujours un certain point de vue sous lequel elle est recevable. Et l'on ne peut opposer catégoriquement le « c'est cela » au « ce n'est pas cela ». Donc, de l'occultation de la totalité, ou de la globalité plutôt, qu'il s'agisse de la voix comme de la parole, sont nées les disjonctions qui n'en gardent qu'un côté. Ou dit à l'envers, c'est dès lors qu'on renonce aux disjonctions qu'on accède à la voix. En comprenant qu'elle n'est exclusivement d'aucun côté, on réalise que la voix est sans côté. Elle est ce qui ne tourne le dos à rien, par où on ne laisse rien tomber. Je cite encore, le Tao, la voix, s'est occulté dans de petits événements, et la parole s'est occultée dans la floraison des débats. Si la voix, le Tao, est dit ainsi, s'occulter dans de petits événements, c'est donc au fond, il n'y a toujours d'avènement que petit, puisque tout avènement, en même temps qu'il advient, est privatif. Dès lors que ça advient, cela prive d'une autre possibilité d'avènement. Ce qui revient à dire que le Tao ne cesse d'être occulté sous les dispositions étroites, par conséquent réductrices, par lesquelles un esprit prend forme et se constitue en point de vue particulier. Donc, dès lors qu'un esprit advient, se constitue en point de vue particulier, il s'enferme dans une certaine position qui le prive des autres possibilités, et c'est de là que naissent les disjonctions. Et c'est de là que naissent, ne cesse de dire ensuite les penseurs taoïstes, les disputes entre les écoles philosophiques. C'est de là que ne cesse de découler le débat entre ce qu'on prend pour vrai et ce qu'on prend pour faux. Bref, c'est de là que naissent les disjonctions. Car en effet, dès lors que l'esprit advient et se constitue en un point de vue particulier, il ne pourra plus procéder que par alternative, bien ou vrai ou faux, bien ou mal, etc. Et l'un n'est gardé qu'au détriment de l'autre. se trouve perdue la coexistence des opposés, alors que c'est cette coexistence même qui assure la cohérence de la réalité. En ce sens, le débat entre écoles ne ferait qu'incarner les esprits advenus, constitués en point de vue, qui ratent la cohérence d'ensemble de la réalité, cette cohérence qui permet de la concevoir ou de l'embrasser d'un extrême à l'autre, c'est pas, sans position privilégiée. Il en découlerait une sorte comme ça de dégradation et de perte de la sagesse, dont je vous lis l'exposé, toujours chez Zhuangzi dans le Qiwulun. Je cite, « Chez les hommes de l'Antiquité, la connaissance était portée à l'extrême. Qu'à l'extrême, on considérait qu'il n'y avait pas d'existant particulier, connaissance extrême, complète, à laquelle on ne peut rien ajouter. Un degré en dessous, on considérait qu'il y avait bien des existants particuliers, mais non de séparation entre eux. Un degré en dessous, on considérait qu'il y avait bien des séparations, mais non de disjonctions. Et c'est par la mise en lumière des disjonctions que la voix s'est perdue. Et par la perte de la voix que des préférences sont advenues. Donc, sous figure d'un âge d'or de la connaissance ou de l'expérience, c'est en amont du jugement disjonctif qu'on est conduit à revenir. Le penseur taoïste, quant à lui, descend comme ça, degré par degré, les étapes de cette généalogie. Au début, au mieux, il y a simplement de l'existence, perçue comme fond indifférencié, et rien ne s'y détache encore. Puis l'existence est particularisée, mais sans qu'elle soit encore dissociée. Puis l'existence est dissociée, mais sans qu'il y ait encore exclusion. Et au terme de cette démarcation progressive, qui est celle d'une sorte de dégradation de la sagesse, qui est celle d'une perte de la disponibilité, apparaît la disjonction. En même temps, vous voyez bien que ce qui menace aussitôt cette pensée d'indisponibilité telle que la développent les penseurs taoïstes. Puisqu'il y a un piège et qui menace tous ceux qui ont souhaité se débarrasser des jugements disjonctifs. Puisque renoncer aux disjonctions est encore disjonctif. Ou exclure l'exclusion est encore exclusif. En refusant les disjonctions, on reconduit du seul fait même de ce refus l'opération refusée. Donc le geste est contradictoire. Et là-dessus, tous les logiciens se sont entendus. Les moïstes, qui sont dans le contexte de la pensée chinoise ancienne, les réfutateurs des taoïstes, le disent bien ainsi. Je cite, « Réfuter qu'on puisse réfuter est contradictoire. » Et par là, ils rencontrent Aristote. Et tout ce qui a été, tout ce qui a assis au départ de la philosophie, le principe de contradiction. Puisque la négation du principe de contradiction entraîne la négation de cette négation même. Bref, il y a là l'évidence logique à laquelle se trouvent acculés tous ceux qui veulent libérer la pensée, et d'abord la libérer de son opposition interne disjonctive, et qui tendrait à fomenter, ne cesser d'alimenter le débat entre écoles et la rivalité de la pensée. C'est, je crois qu'il est intéressant de voir jusqu'où peut aller cette réflexion de la disponibilité en réfutant cette critique, empêchant ou interdisant la réfutation de la réfutation dans la tradition taoïste. Car si réfuter, on puisse réfuter contradictoire, aussi, comme le disent encore les moïstes, si on ne réfute pas sa propre réfutation, on ne réfute pas non plus le principe de la réfutation, comment pouvoir se libérer ainsi des disjonctions ? Comment pouvoir se libérer ainsi de l'opposition de la pensée ? Qui viendrait comme ça occulter eh bien, la réalité qui viendrait recouvrir la voie. Pour ne pas retomber dans le piège de la disjonction, par le refus même de la disjonction, on s'attachera donc pas plus au principe de la non-disjonction qu'on ne s'est attaché à celui de la disjonction. De nouveau, on ne s'enlisera d'aucun côté, dans aucune des deux positions, en restant également ouvert aux deux, et alors c'est la restitution qui se dissipe. Je cite la note d'un commentateur qui me paraît caractéristique à cet égard. Je la cite pour essayer de faire entendre ce mouvement de dégagement, ce mouvement d'évacuation qu'on peut percevoir ici, et qui, je crois, s'oppose, se distingue à ce qui est la démarche de la philosophie. Je cite, « Une fois qu'on a banni la disjonction du vrai et du faux, on bannit aussi ce bannissement de la disjonction. Bannissant cela, et à nouveau, bannissant cela même, c'est-à-dire la non-disjonction, au point d'atteindre au non-bannissement, dès lors, il n'y a plus bannissement, ni non plus non-bannissement, et la disjonction s'en va d'elle-même. » Une telle dissolution de la contradiction me paraît typique de la démarche adoptée par la sagesse en regard de la philosophie. Car, vous voyez, il ne s'agit pas de résoudre la contradiction en dialectisant les deux termes de l'opposition, pour leur découvrir une sorte de catégorie supérieure qui permettrait leur dépassement. Mais il s'agit de ne se laisser accaparer par aucune des deux thèses. Il s'agit de ne se laisser arrêter dans aucune des deux positions. Ne se laisser accaparer par aucune des deux thèses en présence, de façon à pouvoir évoluer librement entre elles, et de ne plus se trouver inféodé à l'une comme à l'autre. Comme on l'a déjà vu à propos de Confucius ou de Mencius, n'est-ce pas, la solution est dans le non-attachement. Non-attachement à l'un comme à l'autre. C'est un attachement qui, de ce fait même, se révèle aussi un non-abandon, pas plus de l'un que de l'autre. En ne se laissant enfermer d'aucun côté, on ne se privera non plus d'aucun des deux. Vous voyez qu'au lieu de résoudre la contradiction par un progrès de la pensée, permettant de la dépasser, on la dissout par son évacuation en se désenlisant de chacune des positions avancées. C'est-à-dire qu'au lieu de prétendre accéder à un au-delà de la contradiction, on prétend se retirer en deçà de la contradiction et de s'en dégager. Donc à la fois, je reprends la démarche, n'est-ce pas ? On bannit la disjonction, mais on bannit aussi le bannissement de la disjonction, donc on ne s'attache d'aucun côté, et ainsi on échappe à leur exclusion. Donc au lieu de prétendre accéder à un au-delà de la contradiction, on prétend se retirer en deçà d'elle et s'en dégager. Il n'y a pas synthèse des positions, mais leur retrait en tant que thèse exclusive et posée. Bref, il n'y a pas promotion d'une vérité, ce serait une vérité supérieure, mais affranchissement intérieur par absence des partis pris. Vous voyez, au fond, pas plus que de la disjonction, je ne veux refaire de la non-disjonction une position qui se constitue elle-même en thèse et par la même devienne disjonctive. Ce qui me permet, et c'est là qu'en vient la sagesse, dans l'exposé taoïste, ce qui me permet à la fois de me prêter librement aux disjonctions, pour l'usage qu'elles peuvent fournir, pour l'usage qu'elles peuvent offrir, et sans plus me laisser murer par elles. Et même, je jouis d'autant plus de leur commodité que je ne suis plus rivé à leur usage. Ce à quoi on accède, c'est qu'il n'y a plus, si je reprends les termes de la citation, il n'y a plus ni banni, ni non banni. En étant braqué d'aucun côté, je reste disponible aux deux. Les deux me sont également accessibles. Et dès lors, ce n'est plus moi qui récuse la disjonction, et qui, en la récusant, me maintient de ce fait dans la disjonction, mais la disjonction qui se décide d'elle-même. Comme il dit, elle s'en va, par disparition des positions occupées. Donc ce n'est plus moi qui exclue, mais l'exclusion qui se défait. C'est ainsi que, généralement, si je me réfère aux deux principales sources de la pensée chinoise, confucéenne ou taoïste, vous voyez comme elles se rejoignent à ce sujet, on a pu comprendre la disponibilité qui fait la sagesse, comme capacité à ne s'arrêter dans aucune position, à ne se laisser enfermer dans aucun point de vue, mais à garder tout ouvert, tout à plat, d'un extrême à l'autre, d'un bord à l'autre, de façon à pouvoir coïncider avec toute l'ampleur de la réalité. Mais pourrais-je m'en tenir là ? Vous voyez que j'ai préféré penser la disponibilité à partir du moment et non pas l'intériorité. C'est parce qu'on la pense, je crois, d'ordinaire en termes d'intériorité, en mode subjectif, que je vois qu'on est si maladroit dans le contexte européen à lui donner consistance. C'est pourquoi c'est resté un terme jidien. Et qu'on a beaucoup de mal à décaper de cette tournure subjective, n'est-ce pas, à laquelle elle est arrivée. Mais pourrais-je m'en tenir là pour penser à la disponibilité ? Ce serait, une fois de plus, continuer de passer sous silence ce grand absent de la philosophie européenne, le corps. Tant on sait bien que durant tout l'âge classique, la philosophie ne l'a conçue que sous l'angle du sensible et de la sensation, par conséquent comme un obstacle, ou au mieux comme un organe douteux, un mode d'accès douteux, en tout cas incomplet, à la connaissance de la réalité extérieure. Or, le penseur taoïste ne l'oublie pas, mais au contraire se défie de cet oubli. La disponibilité passe par le corps. Ou plutôt, puisque ce thème de corps laisse entendre l'âme, par ce qu'on appelle en chinois l'être constitutif, le ti. La disponibilité est dépendante de sa disposition. Elle relève initialement non d'une morale ou d'une psychologie, mais d'une hygiène. Seul peut-être Nietzsche l'a dit chez nous. Qu'elle émane de sa disposition est en effet toute autre chose que la disposition d'humeur, la Stimmung, que Heidegger voyait comme étant cet existentiel originaire. De l'homme authentique, dit le texte taoïste, la respiration est profonde, et encore plus attendue, il respire à partir des talons, tandis que le commun des hommes respire à partir de la gorge. Pourquoi donc prêter intérêt à la respiration ? Pourquoi dire comme ça de façon étonnante, respirer à partir des talons ? Mais je crois justement parce que, par ce renouvellement continu, la respiration se branche chaque fois sur l'actualité du moment. Elle est du moment, elle ne peut être que du moment. Elle est tout entière du moment, elle n'est pas d'avant ou d'après. Elle ne garde pas de reliquat, s'opérant à partir des talons, et ne peut s'anticiper. D'autre part, la respiration, justement, par son alternance d'inspiration et d'expiration, c'est justement ce qui conserve et l'un et l'autre, qui n'exclut pas, qui garde à la fois l'un et l'autre, par l'alternance qu'elle institue entre eux. Elle garde l'un et l'autre, et ne s'attache à aucun des deux. Enfin, c'est elle qui fait communiquer le plus originairement, en rapport à notre être constitutif, le dehors et le dedans. C'est en elle que se réalise l'ouverture. Est inscrit ainsi physiquement, et bien sûr, mais sans bien sûr que le phénomène se limite au physique, cette ouverture radicale, c'est-à-dire s'opérant à partir de la racine, en quoi consiste la disponibilité ? L'être disponible, on le sait tous, respirant à travers tout son corps, l'être détendu, décontracté, qui n'est pas crispé. Nous le disons aussi en Europe, et ces termes sont les nôtres, et même nous le disons couramment. Mais justement sur ce mode d'un conseil courant, banal, tellement prosaïque. Sans le penser par conséquent, sans le considérer comme à penser, telle est l'infra-philosophique. Je reviens donc à ce problème, ce que n'a pas pensé la philosophie, ce qu'elle a commencé par laisser tomber, qu'elle a dû laisser tomber, justement pour devenir la philosophie. Ce laisser tomber n'étant pas négatif, mais ce qui l'oriente au départ et qui l'a inspiré. Ce qu'elle a dû laisser tomber, et qui est ce qu'on sait bien, trop bien, étant trop familier, respirer, respirer un grand coup, mais prenez le temps de respirer, mais qui par là même n'est pas assez distant et distinct pour se constituer un objet de pensée, et par conséquent n'a pas pu accrocher un intérêt théorique. Et si je parle, comme je l'ai fait en commençant, de choix implicites, enfouis, autrement dit de parti pris de la philosophie, c'est que tant de philosophies se sont succédées, critiquées, opposées, ont bifurqué, bref, ont chaque fois tenté un nouveau départ, qui n'en ont pas moins toutes débuté par une philosophie de la perception, y compris la phénoménologie. En France, de Descartes jusqu'à Merleau-Ponty, sans jamais penser, penser à penser, car l'orientation est tout autre, elle n'est pas du connaître et relève bien effectivement d'un autre pli, ce qui serait, se constituant en autre départ effectif de la philosophie, une philosophie de la respiration. Je dirais en conclusion que, pour moi, passer par la Chine, faire ce pas de côté, c'est d'abord me refuser à ce qu'on en fait trop souvent sur un mode exotique. Comme si la pensée extrême-orient venait nous fournir, en forme de sagesse, ce qui serait le revers, ce qui serait et qui viendrait compenser le rationalisme européen. Donc je crois que le pire, c'est cela, c'est la pensée à gourou. Car vous voyez que dans tout ce que j'ai pu exposer à propos de la disponibilité, il n'y a rien de mystique. Il n'y a pas à fuir la raison européenne. Et ce que nous rend, ce que nous expose la pensée chinoise ne fait que nous rendre plus lisible à sa façon ce que nous connaissons déjà, ce qui est dans toutes nos expressions communes, ce qui traîne à titre de proverbe dans la pensée, ou ce qu'on trouve si bien dit chez Montaigne. C'est qu'au fond, l'appareil théorique de la philosophie a recouvert un fond commun d'expérience. Et au fond, c'est ce fond-là qu'on retrouve aussi bien dans les proverbes que nous cessons de dire, comme ce qui se trouve développé dans la pensée chinoise. De quoi réécouter, finalement, le propos de Montaigne ? Quand il dit « Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos », formule qui dit la disponibilité, elle aussi. Mais vous voyez cette formule, pourquoi elle est si difficile à lire ? Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos. D'une part, le sujet est superlatif jusqu'à saturation. Grand, glorieux, chef-d'œuvre. Tandis que, après cette gradation, cet effet de climax, le prédicat apparaît le plus banal, le plus plat, le moins construit. Vivre à propos. Il est le moins dressé, et même le moins analysable, le plus dissous, le plus discret. Car cet infinitif n'offre même pas l'aspérité d'un impératif, à la différence du mode injonctif des stoïciens. La formule ne recommande même pas le bien-vivre, ni même le vivre heureux. Elle n'est pas éthique, elle n'est même pas thétique, ni morale, ni hédoniste. Elle n'est d'aucune école, elle ne se constitue pas en thèse, elle se refuse à prendre position. Bref, elle est sans arrêt, et même sans froncer, à quoi s'accrocherait la pensée, et son fond échappe. On voit bien ce qui fait la difficulté d'une telle formule pour la philosophie. C'est qu'elle a à peine du sens. Littéralement, elle n'a quasiment pas de sens. Elle se contente de dire le caractère athéorique, le caractère tacite de cette congruence qui fait la vie. Alors que la philosophie s'est voulue une quête passionnée de la vérité, et puis à l'époque moderne, une quête passionnée du sens, une telle formule est infra-significative. Et c'est pourquoi, sur elle, la philosophie n'a pas prise. C'est pourquoi elle reste incommentable par la philosophie. Au fond, ce qui caractérise la sagesse, et que nous dit la disponibilité qu'elle recommande, c'est que la sagesse est restée indifférente à la quête du sens et de la vérité. Alors que la philosophie se veut toujours plus originale, et pour cela est inventive, la sagesse de la disponibilité, la sagesse qui se garde de prendre position, et la pensée qui ne cherche pas à se distinguer, à débattre, à rivaliser. Elle est la pensée banale, la pensée proverbiale, la pensée commune. Comme on dit, n'est-ce pas, il faut tout pour faire un monde. C'est pourquoi, au lieu de cultiver le fameux penser autrement qui caractérise la philosophie, comme l'a dit Foucault et comme l'a dit Deleuze ensuite, je voudrais inviter la philosophie à revenir à cette infra-philosophique qui fait le lit de la sagesse, mais sans verser dans le sous de ce qui ne serait qu'un sous-produit, celui de la sous-philosophie, tel qu'il fait genre aujourd'hui. Que la philosophie revienne à ce trop connu, trop proche, trop familier, à ce qu'on sait bien, trop bien, et que par là même on n'a pas pensé, qu'on n'a pas pensé à penser, mais qu'elle y revienne comme elle a appris à le faire, en le portant à la lumière du logos, en le déployant en concept. Et puisque la philosophie procède toujours d'une certaine façon d'une conversion, d'une métanoïa, d'une conversion du regard, je voudrais inviter la philosophie à convertir son regard en le tournant, en le détournant du ciel des systèmes ou du spéculatif ou du théorique, non pas, comme dans le cas de Socrate, vers le terrain de la morale, mais vers ce terrain du banal, vers ce fond du non-original et du non-théorique, du non-spéculatif, même de l'à peine significatif, fond avec et sans S, à la fois comme arrière-plan et comme reste, ce dont la philosophie s'est détachée, et comme capital, comme ressource, ce fond qu'elle a à exploiter. Je crois que, après le grand essor qu'a connu la philosophie, sa quête du sens et de la vérité, la philosophie doit se réapproprier ce fond qu'elle a laissé tomber, qu'elle a dû laisser tomber, et qui nous est resté comme l'impensé de la sagesse. Bref, j'appelle non pas à une sagesse de la philosophie, à une philosophie qui, enfin, serait devenue plus sage, moins ambitieuse, plus résignée. J'entends beaucoup cela aujourd'hui. Une philosophie qui serait comme ça moins théorique, qui aurait baissé un cran dans son exigence. Non pas une sagesse de la philosophie, mais à une philosophie de la sagesse, à une philosophie qui reconquiert ce trop commun, trop connu, c'est la disponibilité de l'à-propos, qu'elle a laissé tomber pour devenir la philosophie, pour définir son exigence, qu'elle reconquiert ce qu'elle a abandonné au plus près et qu'elle laisse comme ça en friche par la pensée. Je vous remercie. Je dépasse l'heure.
La question, c'est dans cet état de la disponibilité et dans la recherche de milieu, et d'après vous, quel est les, dans l'histoire de la pensée chinoise, le rôle de la loi aléatoire? Parce que vous avez mentionné les I Ching, et donc. Pas comme technique divinatoire, mais comme recherche justement du milieu et de la disponibilité vis-à-vis de ces choix.
Si je comprends bien votre question, elle est sur l'aléatoire. Oui. Alors, bon, je ne voudrais pas ouvrir ou m'engager sur ce territoire immense, n'est-ce pas, du I Ching. Le sentiment que j'ai, c'est que la pensée globalement est une pensée de la régulation. De la régulation, c'est-à-dire d'un équilibrage à travers la variation. Puisque si je résume la pensée d'un terme, je dirais, pour elle, tout est du processus. Le réel n'est fait que de processus. Ce qu'on entend par le thème de la voie, du Tao. Il n'est que des processus, et donc si on veut que les processus perdurent, il faut qu'ils soient régulés. Et au fond, ce qui est dit à travers ces différents aspects de la sagesse que j'évoquais, c'est cette exigence de la régulation. Et la disponibilité, c'est justement être capable de rester ouvert à cette exigence de la régulation. Alors, par rapport à ça, l'aléatoire, je dirais, c'est au fond, il y a une réflexion d'un pensée chinoise sur l'aléatoire qui est celle de l'amorce infime du changement, enfin, le son de ti dans la pensée classique, qui est quand une modification commence à s'esquisser, mais qu'elle n'est pas encore visible. Et justement, la sagesse, comme la stratégie, c'est la capacité à pouvoir détecter le plus tôt possible cette amorce de modification.
Oui, je dois dire que cette pensée chinoise m'est difficile par beaucoup de côtés. Heureusement, vous avez parlé de disponibilité, d'ouverture, d'absence de position arrêtée. Tout ça, je comprends bien. Par contre, il y a des choses sur lesquelles je voudrais vous poser des questions. Vous avez parlé à la fois de tolérance et au contraire d'intransigeance. Est-ce qu'on peut dire que cette pensée a un souci de la liberté, étant donné que j'entends de la liberté de jugement. Est-ce que vous pensez que c'est pour éviter des choix douloureux, un désir de paix en quelque sorte, tout au moins de paix intérieure. Alors, il y a un problème énorme, c'est agit-on à partir de cette pensée ou de ces recommandations, parce que quand on reste toujours au milieu, ni d'un côté ni d'un autre, on peut se demander si on prend justement position, ne serait-ce qu'ultérieurement. Ou bien est-ce que le taoïsme, comme le confucianisme, a voulu insister plutôt sur ce qui est en deçà de l'action ?
Oui, la question est très vaste. Je vais y répondre là encore de façon très insatisfaisante. D'abord, je crois qu'il y a une chose qui me paraît claire, c'est que cette pensée du milieu comme pouvant être à l'un comme à l'autre extrême, ne s'oppose pas du tout à l'intervention dans le monde. Puisqu'il ne s'agit pas du tout d'un milieu de la demi-mesure, du milieu, c'est-à-dire à mi-chemin, mais au contraire, le fait que je suis prêt à répondre à toute situation, si extrême qu'elle soit. Donc, encore une fois, je peux être aussi intransigeant que les plus intransigeants quand il le faut, aussi accommodant que les plus accommodants quand il le faut. Et le milieu étant la capacité à rester également ouvert aux deux. Vous savez qu'on dit de Confucius, quand il convenait qu'il prenne une charge, il la prenait. Quand il convenait qu'il quitte sa charge, il la quittait. C'est pas pouvoir faire l'un aussi bien que l'autre. C'est ça qui me paraît intéressant dans la mesure où justement cela signifie qu'on peut vivre à fond de l'un ou l'autre côté. C'est pas maintenant, l'autre question que vous posez sur l'agir, vous savez bien qu'il y a un thème commun, banal, dans la pensée chinoise, qui est le non-agir. Mais sur lequel on se trompe souvent parce qu'on le prend comme étant une sorte d'invitation au désengagement par rapport au monde. Or, ce n'est pas du tout ça. Quand il est dit le non-agir en Chine, c'est un non-agir pour plus d'efficacité. Ce n'est pas du tout un non-agir parce qu'on se retirait du monde, on se mettrait en quelque sorte, on accepterait une sorte de passivité, on se résignerait ou on se détacherait. Mais l'idée que, justement, puisque le réel est fait de processus, plus je sais détecter l'amorce des processus, plus je sais intervenir en amont, plus je sais me laisser porter par eux, moins j'ai à intervenir, moins j'ai à peser, moins j'ai à agir. Donc, si vous voulez, effectivement, globalement, toutes les écoles chinoises se rencontrent pour prôner le non-agir, mais ce n'est pas du tout un non-agir désintérêt pour l'intervention dans le monde, désintérêt pour la transformation du monde. Mais au contraire, l'idée que, comme dit le Lao Tzu, il faut oser ne pas agir, plus je sais scruter, détecter tôt les tendances faisant évoluer les processus, plus je sais m'appuyer sur les facteurs porteurs des choses, moins j'ai à intervenir, moins j'ai à agir. Donc j'insiste là parce que je crois que ce thème du non-agir, on le comprend souvent comme étant, là encore, rentrant dans une sorte de mystique, n'est-ce pas, opposé à ce qui serait l'Occident prométhéen et toujours voué à l'action. En fait, c'est par souci d'efficacité qu'on prône ce non-agir et non pas du tout, par, disons, retour à ce qui serait une passivité.
Encore deux questions rapidement.
Bonjour, monsieur.
Très rapidement, à propos de recherche du juste milieu, est-ce que vous pensez qu'il est sage ou philosophique que de vouloir répondre à la question de l'œuf ou de la poule ?
De ?
L'œuf ou de la poule ? Ou alors, à moins que ça soit taoïste, hein, je sais pas moi.
Avez-vous ?
Je propose qu'on passe à la question suivante et je répondrai aux deux en même temps.
Monsieur, là-haut, allez-y.
Je voudrais encore une fois revenir à la notion de changement et face à la sagesse. Trop souvent, les mots sont dangereux. Dans un certain nombre de cultures, pour un certain nombre de personnes, la sagesse consiste à ne rien faire pour ne pas changer. Elle devient une mécanique de l'arriération. Une façon de refuser ce qui bouge comme une façon de consolider ce qui est statique. Je crois que la notion de précision est importante, qu'on la regarde à travers l'efficacité énergétique que l'on déploie ou à travers la lecture de la pensée des autres. Et cette question donc, que je vous adresse, monsieur, c'est celle-ci. La sagesse n'est-elle pas dangereuse ? Ne justifie-t-elle pas, justement, un certain nombre d'injustices, d'arriérations et d'obscurantisme ?
Je réponds peut-être en deux points. Le premier, ce qui me paraît intéressant dans la pensée chinoise de la sagesse et dans sa conception de la disponibilité, c'est justement le fait qu'elle la branche sur une pensée du changement. Puisqu'encore une fois, dans la pensée chinoise, l'évidence, le fond commun, c'est que le réel est en transformation continue et que le sage, comme le stratège, s'il n'agisse pas, il transforme. Donc, je vois que l'idée globale de la pensée chinoise, encore une fois, c'est ce qui, à mon sens, fait l'intérêt de cette réflexion, c'est que, justement, la sagesse, c'est de pouvoir évoluer toujours, c'est pas, de ne s'enliser dans aucune position, de ne s'enfermer dans aucun point de vue, de rester ouvert à ce qu'est le renouvellement de la réalité. Cela dit, je crois entendre dans votre question autre chose, qui, alors là, peut-être révèle effectivement un point aveugle de la pensée chinoise, à propos de la sagesse, de la disponibilité, c'est que la pensée chinoise nous montre bien comment on peut penser sans prendre position ? Alors que le fait même que philosopher, c'est prendre position. Je crois qu'elle nous montre bien comment on peut penser sans prendre position, donc on bannit la disjonction et on bannit ce bannissement de la disjonction, donc on ne s'arrête dans aucun point de vue. Mais la question que cela pose, je crois effectivement, sur un plan politique, c'est que, et c'est ce que je crois qu'on voit aussi par la tradition chinoise, c'est que le politique, c'est justement le domaine où il faut prendre position, plutôt qu'il n'existe que par le fait qu'on prend position. On peut mesurer par là comment, effectivement, la pensée chinoise n'a pas constitué elle a pensé la morale, elle a pensé le pouvoir, mais elle n'a pas pensé le politique, parce qu'elle n'a pas pensé la cité. La cité étant justement le lieu où, par principe, on prend position. On est pour ou contre, n'est-ce pas ? On parle pour ou contre. Et le pour ou contre n'étant pas arbitraire, mais étant la façon dont s'organise la liberté ou la démocratie. Donc je crois qu'au fond, là, il se dégage bien effectivement un point aveugle de la pensée chinoise. Un point aveugle qui est que, et on voit bien le sage de la pensée chinoise, et on voit bien même dans le traité du Zhuangzi, c'est toujours il vit toujours à l'ombre du prince, n'est-ce pas ? Dans l'ombre du prince, dans l'ombre du pouvoir. Parce que, à différence de ce qui serait l'intellectuel occidental, il n'a pas pris position. Donc cette sagesse qui dit « restez disponible, ne prenez pas position », conduit, je crois, sur le plan politique, je pense qu'on le mesure à travers toutes les histoires chinoises et encore aujourd'hui, à une sorte d'inconsistance du politique, non pas de la politique, mais du politique, parce qu'il n'y a pas d'institution du pour et du contre, ce qui a fait la cité grecque, au tribunal, à l'assemblée, au théâtre, ben bon, ce pour ou contre qui a formé la cité grecque, et que n'a pas du tout déployé le monde chinois. Donc à cet égard, il y a effectivement, à mon sens, un danger politique à disponibilité, puisque ce que nous dit le sage chinois, c'est « chacun a raison à sa façon ». Mais si chacun a raison à sa façon, si toute opposition est une perte, est-ce que cela ne dissout pas le cadre même de la cité, qui ne peut exister que par antagonisme, que par discours face à discours, etc. Bon, cela a très vite répondu, bien sûr.
François-Julien, je vous remercie.